liberté.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Djoliba TV News. Bienvenue dans votre émission En toute liberté. En toute liberté, c'est votre tribune qui donne la parole aux acteurs politiques, mais aussi aux acteurs de la société civile. Objectif, faire bouger les lignes et faire vivre notre jeune démocratie. À Djoliba TV News, nous ferons le serment de faire la télé en libéralisant la parole publique, mais aussi d'œuvrer au quotidien pour une information plurielle au service des citoyens et de la démocratie. Mesdames, Messieurs, notre invité de ce soir est un visage connu de l'espace public malien, acteur politique, homme d'affaires. Il est aussi le porte-parole du M5-RFP, vous l'aurez compris, notre invité est Jamil Bitar. Jamil Bitar, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de répondre à notre invitation.
Plaisir partagé.
Déjà aujourd'hui, on va aller rapidement avec les questions, on rentre dans le vif du sujet directement. Le M5-RFP avec ce nouvel attelage gouvernemental, ils sont nombreux, ces observateurs politiques qui estiment que le M5 n'a pas été servi et que désormais, clairement, ça sonne le désamour entre vous, M5-RFP, et les militaires qui dirigent aujourd'hui la transition. Qu'est-ce que vous répondez ?
À chacun sa façon de voir, à chacun son analyse. Mais en ce qui me concerne, je pense que le serpent, c'est surtout la tête. On le dit en bambara. Et moi, j'estime aujourd'hui que, toujours avec la primature, je pense que aujourd'hui, on ne peut pas dire que le M5 n'est pas présent dans l'attelage gouvernemental. Je profite de l'opportunité qui m'est offerte pour remercier les ministres sortants, M5, non-M5, pour le travail accompli et dire que l'État, c'est une continuité. Et féliciter par la même occasion ceux qui viennent juste d'arriver et renouveler encore les félicitations au Premier ministre et au ministre Ikassa et dire que le peuple attend. Le M5, c'est un idéal. Ce n'est pas un mouvement politique en soi. Ce n'est pas une formation. Donc, je pense que tous ceux qui aspirent au changement aujourd'hui sont M5, y compris les militaires qui sont au pouvoir.
D'accord. Est-ce que le M5, pour comment vous allez vous réorganiser? Parce que c'est dit qu'aujourd'hui, que vous n'avez plus votre... ce qui faisait hier votre force, aujourd'hui vous ne l'avez pas, votre capacité de mobilisation. On a vu tout dernièrement pour le stade du 28 mars, pour mobiliser, il a fallu le concours de certaines personnes pour remplir le 28 mars. Donc est-ce que, à ce niveau aussi, votre capacité de mobilisation, est-ce qu'elle n'est pas en cause?
Non, moi je pense que, au fait, aujourd'hui, vous savez, quand on est dans la contestation et quand on est dans la gestion, c'est pas pareil. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, disons qu'il y a eu des problèmes, des soucis, certainement, mais qu'à cela ne tienne aujourd'hui. Moi, je pense que pour le stade du 26 mars, la première aventure a échoué, la seconde, nous avions été impliqués, et le résultat, il est connu de tout le monde. Et les gens peuvent certainement vouloir faire porter le chapeau, mais qu'à cela ne tienne, moi je dis félicitations à tous ces militants, ces sympathisants qui sont sortis pour aller au stade. Okay. Et vous savez, les mêmes mouvements étaient là à la première tentative. Okay. Mais malheureusement, ça a échoué. Et il a fallu peut-être le concours de M5-RFP pour que nous puissions faire ce plein aussi.
Ok. Le Premier ministre du M5-RFP, Choguel Kokalamega, est à son poste. Ibrahim Ikassa Mega aussi garde son poste au niveau du ministère de la Refondation. Déjà, le Premier ministre, il tient son poste, malgré tout ce qu'on peut dire, malgré tout ce que c'est dit. Parce que les gens parlent un peu de désamour entre l'aile politique et puis l'aile militaire, mais le Premier ministre garde son poste.
Vous pouvez me dire aujourd'hui que l'aile militaire n'est pas politique. L'aile militaire aussi est politique. Parce que l'analyse, elle est toute simple. Quand vous arrivez à battre campagne pour un référendum, pour une élection, ça veut dire que vous êtes politique. Les militaires se retrouvent également sur le champ politique aujourd'hui. Donc, moi, je dis que, quelque part, mon analyse est tout à fait simple. Aujourd'hui, tous les acquis de la transition, en tout cas, nous, nous estimons que c'est sur nos 10,17 mesures. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, et ce changement, je vais dire, est amorcé. Et nous sommes au début et je pense que nous devons être également à la fin. Quand on parle de refondation, les assises nationales de la refondation, c'est quand même le socle de tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui au niveau de la transition. Qu'on le veuille ou pas, c'est ainsi. Heureusement ou malheureusement, et c'est les préoccupations du peuple que nous avons pu faire porter au niveau du gouvernement.
Ok. Oui, dernière question sur le M5-RFP. Est-ce que le M5-RFP pour la présidentielle, est-ce que vous aurez un candidat unique, parce qu'on sait que c'est plusieurs regroupements qui se trouvent au niveau du M5, ou vous allez en rang dispersé, chacun va tenter sa chance?
Moi, j'estime aujourd'hui que même les militaires sont M5. Et nous avons tous intérêt aujourd'hui pour que cette après-transition puisse réussir, que nous mettions ensemble pour aller avec une seule candidature. Et cette candidature, je pense que à temps opportun, entre ce que vous appelez l'aile militaire et nous, l'aile politique, nous devons nous mettre d'accord sur une candidature unique pour pouvoir gagner ces élections. Et je pense que les prédispositions sont là. Il n'y a pas de désamour, comme vous le dites, entre nous.
Je dis que ce sont ce que pensent certains. Voilà, ce n'est pas mon opinion personnelle. Ce que pensent certains.
Ça, c'est quand même une analyse.
C'est subjectif pour vous.
Voilà, pour moi. Et j'estime qu'à temps opportun, nous devons nous mettre à table pour convenir d'une candidature unique, l'aile politique et l'aile militaire. Oui. Et c'est ça l'idéal. À défaut, je pense que c'est là où on parlera peut-être de désamour ou de clash.
D'accord. Le président de la transition a reçu ce matin les ministres qui sont sortis du gouvernement. Donc, est-ce un message pour dire, bon, vous ne faites plus partie du gouvernement, mais nous sommes ensemble?
Oui, bon, moi je pense que cela va de soi. C'est des parcours. Ceux qui sont restés ont peut-être mérité. Ceux qui sont partis n'ont pas démérité non plus. Aujourd'hui, je pense que dans la dynamique où nous nous trouvons, le Premier ministre les a reçus. Après le Premier ministre, il y a eu cette rencontre aujourd'hui avec le président. C'est certainement non seulement pour les remercier, mais également pour dire que on peut servir son pays, même n'étant pas dans un gouvernement. Nous, on le fait à longueur de journée, nous ne sommes pas dans un gouvernement. Okay. Donc moi, j'estime aujourd'hui que c'était normal que le président puisse vraiment les recevoir.
D'accord. Jamil Bitar, la présidentielle pour vous 2024, c'est dans quelques mois. Si vous pensez que on est en train d'aller vers la présidentielle. Surtout qu'on sait qu'il y a un gouvernement qui vient d'être installé. Et pour ce gouvernement-là, il faut quand même du temps. Si, 3 mois pour peut-être au moins connaître un peu les mécanismes, comment ça marche. Est-ce que pour vous, ça rassure. Est-ce que pour vous, le chemin est bien balisé pour aller à la présidentielle?
Je vais être plus simple en la matière. Pour faire des élections, il faut de l'argent. Il faut une administration. Et moi, je pense que le ministre des Finances est resté à sa place. Et c'est lui la première cheville ouvrière pour trouver les fonds nécessaires pour l'organisation des élections. Le deuxième volet pour moi, c'est l'administration territoriale. Okay. Le colonel Mega est resté à sa place. Et nous venons juste de sortir du référendum. Donc moi, je pense que quelque part, aujourd'hui, et le ministre de la Sécurité également, pour sécuriser le territoire. et moi je pense le ministre de la Défense aussi. Donc c'est des ministères qui sont restés tels que c'est. Et moi je pense qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, en tout cas, eux, ils n'auront pas besoin de gymnastique par rapport à l'existant. Donc c'est un peu ça.
D'accord. Donc vous croyez fortement, hein, voilà, vous croyez avec ferme conviction qu'on peut faire des élections, hein, dans quelques mois.
Oui.
Surtout, mais il y a les communales, les locales, et puis les législatives, ou bien il faut carrément aller à la présidentielle
Bon,
pour ne pas perdre du temps.
le programme que j'ai vu, je pense que met en exergue la présidentielle, l'élection présidentielle. Donc, moi, je pense que c'est pratiquement d'ici 6 mois. Et tout me laisse à croire aujourd'hui que nous allions peut-être mieux nous organiser pour aller vers ça.
D'accord. Samuel Bertrand, parlons toujours de l'actualité, la MINUSMA et la mission des Nations Unies au Mali qui est sur le départ. Le retrait, il est acté par les Nations Unies. Dans 6 mois, la MINUSMA doit quitter le territoire national. Vous étiez l'un de ceux qui étaient sur le terrain pour demander justement le départ de la MINUSMA. On a vu sur les images au Palais de la Culture où vous avez remis vous-même et de vos propres mains. Carton rouge à celui que vous appelez le commandant en chef, hein, de Yerolo Ben de Servo pour demander le départ de l'aménagement. Vous avez vous-même brandi un carton rouge. Et aujourd'hui, quel sentiment vous anime?
Un sentiment peut-être de satisfaction. Vous savez, quand vous êtes dans un combat où il y a beaucoup de sceptiques, et quand Dieu vous donne cette bonne chance, moi je pense que vous ne pouvez que glorifier et vous mettre à genoux devant le bon Dieu pour gratifier ce tonnerre qu'il vous fait. Le deuxième aspect pour moi, c'est que c'est le lieu aussi pour moi de remercier les autorités de la transition qui ont su aller à l'écoute du peuple malien. C'est ça le plus important, parce que j'avais dit en son temps qu'il y avait deux messages. Le premier message était adressé aux autorités maliennes pour dire voilà ce que nous, peuple malien, nous voulons. Et le deuxième message était adressé aux Nations Unies pour dire, faites attention, nous ne voulons plus du renouvellement du mandat de cette MINUSMA. Donc voilà, et je pense que le peuple malien a été dans son ensemble écouté par les autorités, qui s'est manifesté par la position du gouvernement, qui était notre position. Et de l'autre côté également, je pense qu'au niveau des Nations Unies, vous avez vu qu'il y a eu un vote pratiquement à l'unanimité.
Oui.
Donc vraiment, je me dis quelque part que c'est une première satisfaction que nous avions, mais il n'y a pas de rose sans épine.
OK.
Hier seulement, je voyais sur les réseaux sociaux et un de nos frères sénégalais qui était en boule pour vraiment manifester une position. Heureusement que l'aménagement, les autorités de l'aménagement sont sorties pour apporter vraiment une clarification par rapport à cela. Et à ce fameux militaire sénégalais, il faut qu'il comprenne que nous sommes certainement une terre d'accueil, mais que les autorités du Mali doivent le mettre personne non grata pour qu'il retourne chez lui. Et nous ne sommes pas prêts à accepter certains positionnements sur notre territoire.
Oui, la MINUSMA qui va partir, hein, dans 6 mois, mais qu'est-ce que véritablement ça va changer dans le contexte malien? Parce que certains disent aussi que la MINUSMA a créé des emplois, que ils seront des centaines de Maliens qui vont perdre leur emploi. Justement, tout ça, quel est l'avenir après la MINUSMA?
Vous savez, c'est une campagne médiatique que les gens ont mis sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, moi, je vais vous dire exactement ce que j'ai comme chiffre. Il y a 859 Maliens civils, je dis bien 859 Maliens civils qui travaillent au niveau de l'aménagement. Voilà le chiffre. Et moi, je suis désolé et je suis même choqué que aujourd'hui au Mali.
Donc 850 en tout.
59.
59. Tous les Maliens pour
tous les Maliens. Civils, hein? Pas moi, ah ouais. C'est les chiffres officiels de l'aménagement que l'aménagement même donne. 850. Et moi, je suis un peu, je dirais, choqué par cela. Et j'ai vu des chiffres ronflants sur les réseaux sociaux souvent, qui parlaient des milliers, etc. Mais de vous à moi. Bitar Trans, en temps réel, employait plus que l'aménagement. Vous savez, c'est désolant, c'est décevant qu'avec tous ces milliards annoncés, qu'on se retrouve avec ce chiffre qui ne reflète rien pour moi aujourd'hui. Et moins d'un millier de personnes, il y a des employeurs maliens qui emploient plus que l'aménagement aujourd'hui, mais qui ne sont pas dans les faveurs... Oui. Que la mais
est-ce que même si c'est 805, est-ce qu'il fallait cracher sur ça? Au moins, peut-être que des jeunes ont quitté le chômage et des chefs de famille ont retrouvé leur dignité.
Mais et c'est pas tout. C'est des contrats à durée déterminée parce que les contrats sont établis sur la base, en tout cas, du renouvellement à chaque fois. Okay. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne s'attendaient pas qu'un jour. En tout cas, que cette mission allait prendre fin. Donc, quelque part, moi, je dis que ces 800 et quelques Maliens, ils trouveront du boulot, si Dieu le veut. Si notre économie, si on arrive à relancer notre économie, et moi, je pense que chacun d'entre eux, en tout cas, trouvera une place qui va les convenir.
Oui, sur le plan sécuritaire, après le départ de l'aménagement, est-ce que vous ne craignez pas qu'une dégradation du contexte sécuritaire? C'est vrai, on avait annoncé la dégradation du contexte sécuritaire après le départ de Barkhane, mais l'aménagement aussi va partir. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les forces de sécurité et de défense maliennes sont suffisamment prêtes pour relever le défi?
L'une des raisons qui nous ont fait demander le départ de l'aménagement, parce que cet aménagement était manipulatrice et elle venait souvent en aide à ces forces occultes qui étaient sur le terrain, qui sont toujours sur le terrain. Et raison de plus que nous avions, en tout cas avec des preuves à l'appui, nous avions demandé pour que cet aménagement quitte notre territoire. Parce qu'on allait de mal en pire et à chaque fois, toutes les attaques qui étaient perpétrés, organisés, nous avions compris qu'il y avait une main derrière. D'abord, c'était avec Barkhane. Après Barkhane, l'aménagement, ce n'était que le relais de Barkhane. Donc aujourd'hui, moi, je pense que vous aurez même compris que la France, le dernier maillon essentiel qu'ils avaient, c'était à travers l'aménagement.
D'accord. Mais qu'est-ce que vous répondez quand certains observateurs pensent que c'est tout est parti aussi du fameux rapport de Moura qui mettait en cause justement une supposée massacre de civils à Moura par l'armée malienne. Est-ce que pour vous, est-ce que vous vous donnez vous pensez que cette piste est tenable?
Nous, on s'est manifesté avant Moura. Nous sommes toujours manifestés par rapport à la présence de l'aménagement. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, le débat, il est clos. À nous maintenant de reprendre en main notre destinée. Et c'est en cela que nous appelons de tous nos voeux. Et moi, je suis convaincu aujourd'hui que nos forces pourront remplir aisément la mission qui est la leur aujourd'hui, à savoir sécuriser les populations et les territoires et pour que nous ayons notre intégrité territoriale à 100%.
D'accord. Après le départ de l'AMINUSMA, quel est le prochain combat, votre prochain combat? Je parle de vous et de vos amis qui ont demandé le départ de l'AMINUSMA. Vous étiez en première ligne pour le départ de Barkhane, ensuite AMINUSMA. Le prochain combat, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, ils sont nombreux qui disent aussi que, bon, désormais, il n'y a plus de bouc émissaire, parce que certains pensent que le Mali a longtemps...
Le prochain cap pour moi, c'est la CEDEAO. Et vous vous souvenez quand même que j'ai eu à remettre un courrier au Premier ministre pour qu'il l'apporte au président de la transition. Parce que nous partons d'un constat. Nous savons que tant qu'au niveau de la CEDEAO, il n'y aurait pas une clarification par rapport justement aux États et certaines situations, moi, je pense que nous n'avons pas notre raison d'être dans cette CEDEAO pour nous qui est comme un grain de chef d'État affilié, où le chef de grain, c'est toujours le président de la France qui est en train de manipuler. Et certains vous diront, ah, il y a le Nigeria et puis il y a le Ghana. Mais on comprend tous l'enjeu politique qui existe derrière. Et vous avez vu aujourd'hui que nous avions des difficultés avec la BCAO parce que, quelque part, il y a toujours cet embargo qui ne dit pas son nom. Donc moi, j'estime aujourd'hui que nous avions tout à fait intérêt de pouvoir nous mettre certainement soit à table pour essayer d'apporter les réglages qu'il faut ou éventuellement, plus tard, acter notre sortie. Parce que moi, je suis convaincu que une union du Burkina, de la Guinée et du Mali est plausible.
Ok, mais le Mali avait eu l'occasion, si vous le dites, le Mali avait eu l'occasion peut-être de se retirer de la CEDEAO avec les sanctions, mais le Mali allait quand même demander la levée des sanctions.
Non,
on plaidait même pour la levée des sanctions.
Non, vous savez, il y a des enjeux. Nous étions isolés pratiquement. Et non seulement nous étions isolés, et la monnaie que nous utilisons aujourd'hui, c'est quelle monnaie? C'est vraiment la monnaie, comme on appelle ça, le CFA. Donc on n'est pas aujourd'hui dans cette, comme on appelle ça, on n'a pas aujourd'hui, aujourd'hui je veux dire que toutes les dispositions ne sont pas encore... prise pour que nous puissions quitter le
Mali. Est-ce que vous allez faire ce combat-là? Est-ce que c'est le prochain combat, Djamil Mita?
Oui, c'est...
C'est votre combat ou bien c'est vous et puis vos amis, hein?
Moi et mes amis. Okay. Et nous n'allons rien lâcher. On va continuer.
Jusqu'à la souveraineté totale du pays.
Oui, nous sommes des patriotes. Okay. Et c'est sans arrière-pensée. Tout pour le pays. Même s'il faut notre sang, nous allons en tout cas œuvrer par rapport à cela. Et moi, je dis, quand il y a eu l'embargo aussi, il faut reconnaître qu'au niveau justement des États, ça n'avait pas été suivi à 100% du côté sénégalais. Et Macky Sall avait desserré un peu quand même les tuyaux parce que des marchandises arrivaient quand même à rentrer du Sénégal. Donc, moi, je dis quelque part, l'unanimité ne se fait pas aujourd'hui autour de cette question. Ce qui est évident pour moi, j'estime que nous pouvons avancer, en tout cas, en toute liberté. Si ce n'est pas dans la transition, l'après-transition va nous modeler, nous conduire à cela.
Ok. Oui, parlons maintenant de Kidal, de l'accord... d'Alger, hein. Kidal qui n'a pas participé au référendum constitutionnel. Aujourd'hui, Kidal, est-ce que Kidal aujourd'hui est, pour vous est un enjeu important? Est-ce que qu'est-ce qu'il faut faire pour, parce que c'est l'accord d'Alger qui établit un peu les relations entre Kidal et les ex-groupes armés. Aujourd'hui, après le départ de l'AMINUSMA, l'avenir de l'accord d'Alger?
On a dit qu'il fallait une relecture de l'accord d'Alger. Les gens ont pensé, certains ont parlé de lecture intelligente ou d'application intelligente, etc. Et tout le monde sait que l'accord d'Alger en soi, aujourd'hui, ne reflète pas la réalité du terrain. Et mieux que cela, Kidal était devenue soudainement la ville interdite. Aujourd'hui, avec le départ de Barkhane, soit nous revenons tous à la raison, nous sommes tous des Maliens, soit quelque part, vous savez, c'est tellement simple, dans ces grandes démocraties, ça existe. Vous avez.
Une petite rébellion, peut-être ça.
Oui, mais ce qui est évident, en tout cas, nous nous disons que Kidal fait partie du Mali et Kidal doit rester au Mali. Donc, maintenant, si quelque part d'autres forces étrangères venaient, en tout cas, à essayer de s'interposer ou de prendre en otage cette ville, oui. Ben, nous userons de toutes nos forces pour éventuellement libérer. Libérer nos compatriotes qui sont à Kidal.
D'accord, Jamil Bitar, on va entamer la dernière rubrique de l'émission, rubrique questions en direct. Le numéro de téléphone va s'afficher tout de suite sur l'écran, sur votre écran, pour des questions en direct à notre invité Jamil Bitar, des questions d'actualité. Posez votre question à notre invité sur les sujets d'actualité. Donc, Jamil Bitar, qui est le porte-parole du M5-RFP, mais vous devez vous éloigner de votre poste pour qu'on puisse avoir une meilleure liaison téléphonique ici et dans le studio. Mais Jamil Bitar, déjà parlons de coopération. Le Mali aujourd'hui a choisi la Russie pour comme partenaire. Mais la Russie, déjà, il y a cette situation entre le chef de cette milice Wagner avec. Qui est rentré en rébellion contre Vladimir Poutine. Vous avez fait vos études en Russie. Qu'est-ce que cela vous dit? Certains ont parlé de mise en scène. Vous, et qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense que ça nous a tous permis de comprendre que on est bien, on est bon. Barkhane est devenu tout à fait fréquentable. Okay. Juste. Quand il s'est agi d'avoir, comment dirais-je, cette rébellion. Mais ce qui est évident, c'est des questions d'intérêt. Et moi, je pense que Poutine a encore la main. C'est un dirigeant extrêmement intelligent et muni de beaucoup de pouvoir. Et moi, j'estime aussi aujourd'hui que ça nous a permis de comprendre pas mal de choses, mais aujourd'hui, je peux vous rassurer que tout est rentré dans l'ordre et que ce qui est évident, l'Ukraine va demeurer, ou une bonne partie de l'Ukraine va demeurer en tout cas propriété de la Russie. Ça, c'est évident.
D'accord. Pour vous, il n'y a pas de conséquences pour des pays comme le Mali, la Centrafrique, qui ont fait le choix d'être avec Prigogine, par exemple?
Non.
Sur le plan militaire?
Non, non. Vous savez, aujourd'hui, les gens parlent de choix du Mali. Ce choix, il a toujours existé. C'est avec le mouvement démocratique que nous avons pris nos distances par rapport à la Russie. La Russie fait partie des premiers alliés du Mali, je veux dire l'Union soviétique en tant que telle. Et moi, je suis surpris aujourd'hui que les gens... C'est comme la Chine, c'est également comme l'Allemagne. Bon, moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avions quand même un allié sûr et un allié de taille. Et si Dieu le veut, je pense que nous avions plus à gagner dans cette coopération qu'une coopération, en tout cas, multicolore, multidimensionnelle. Okay. Et cette, pour preuve aujourd'hui, l'aménagement, vous voyez.
Okay. Oui, Jamil Bitar, il y avait direction des téléspectateurs. Nous étions, vous étiez là en train de répondre à une question. Oui, Jamil Bitar, parlons toujours de cette actualité. Macky Sall, donc pour parler d'un sujet régional, Macky Sall, sous-régional, Macky Sall qui renonce finalement à son un mandat, hein, bon, même s'il dit que la Constitution ne lui interdit pas. Et quelle analyse faites-vous, hein, de cette décision de Macky Sall à ne pas se présenter et en 2024?
Je pense que la sagesse a prévalu et je félicite le président Macky Sall pour sa grande sagesse. Et aujourd'hui, le seul handicap que nous avions, il faudrait qu'il accepte que tout le monde puisse compétir. Et c'est cela qui va le faire encore grandir davantage et qu'il montre aux yeux du monde que le Sénégal quand même demeure cette grande démocratie et que malgré les différends, malgré tout ce qui s'est passé,
oui.
Mais qu'à cela ne tienne, je tiens à m'incliner également devant la mémoire de tous les disparus pendant les événements douloureux du Sénégal. De toute façon, le Sénégal reste un pays frère, un pays ami du Mali. Et je pense que c'est à Macky d'achever en tout cas, le travail entrepris. Et un coup de chapeau pour lui. C'est une grandeur. Je me souviens encore que le président Alpha Omara Konaré disait souvent qu'il était plus facile d'accéder au pouvoir que de quitter le pouvoir. Donc, vous savez, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir dire « bon, je renonce ». Et certains l'ont fait. Et malheureusement, ça amène toujours plus de division que justement d'entente nationale.
Et quand vous dites que Macky doit parachever ou doit terminer ce qu'il a fait, vous pensez, vous faites un clin d'œil certainement à Ousmane Sonko aujourd'hui. À quel avenir pour Ousmane Sonko après cette décision du président Macky Sall?
Il n'y a pas que Ousmane Sonko, il y a Ousmane Sonko, il y a le fils Ouad, il y a d'autres.
Karim Ouad.
Il y a Karim, il y a d'autres.
Ali Fassal, certainement.
Voilà, donc moi je pense que il peut, malgré ses décisions de justice, il peut gracier. Gracier et laisser l'opportunité de compétir, que le meilleur gagne.
Que le meilleur gagne. Donc, nous allons suivre cette actualité de près. Jamil Bitar, revenons toujours pour parler du Mali. Pour vous, les défis, quels sont les grands défis pour cette transition? Parce qu'on sait qu'il y a la cherté de la vie, les Maliens se plaignent encore des coupures d'électricité, les Maliens n'ont pas de carte, les cartes biométriques aujourd'hui, jusque-là, on ne sait pas ce qui est devenu, vous avez vous-même rappelé cette question-là ici. Quels sont pour vous aujourd'hui les grands défis de cette transition?
La première priorité, c'était la sécurité. Assurer la sécurité du territoire des Maliens ainsi que leurs biens. Et je pense que un grand effort a été fait à ce niveau. Maintenant, le deuxième volet, c'était pour nous la lutte contre la corruption et les détournements, etc. Je pense que les dossiers ne vont pas au rythme que nous souhaitons vraiment. La justice, le temps de la justice n'est pas notre temps, malheureusement. L'autre volet sur lequel
vous pouvez parler un peu plus fort.
Je dis l'autre volet, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il faut une relance de notre économie nationale. Et vous parlez de la cherté de la vie, des problèmes d'électricité, etc., etc. Donc, il faut une relance de notre économie nationale. Et c'est à cela que le nouveau gouvernement doit s'atteler. Et aujourd'hui, ce n'est pas compliqué. Si vous n'avez pas les moyens de votre politique, vous devez vous endetter pour le faire. Maintenant, pour s'endetter, il y a des conditions qu'il faut remplir. Et souvent, c'est ça l'handicap que nous avions aujourd'hui. Et également, regarder de près la dette intérieure du pays pour qu'il y ait une fluidité, certainement au niveau, en tout cas, des affaires, qui va régénérer certainement d'autres ressources. Et également, il faut moraliser les dépenses. Les dépenses publiques, il faut les moraliser. Et le point final, c'est quoi? C'est les élections. il faut les organiser et bien les organiser pour qu'il y ait le moins de contestation possible. Ça, c'est un défi majeur.
Okay. Pour vous, l'organisation, la réussite des élections, ça passe par quoi?
Ça passe par beaucoup d'éléments. Et
parmi lesquels, vous pouvez citer quelques...
Moi, par exemple, je dirais que l'organisation du référendum, dire qu'on va voter avec tous les documents possibles, ça, je pense que ça, c'est...
Il faut exclure ça.
Il faut exclure ça. Okay. Il faut que nous ayons tous le même document avec lequel nous allons... Il faut que le fichier soit bon. Il faut également que les candidatures puissent être bien suivi et que au niveau des bureaux de vote, que en tout cas au-delà du personnel qui organise, il faudrait que les candidats également aient leurs représentants au niveau des bureaux de vote. Ça aussi c'est très très important et il faudrait que il y ait un suivi réel par rapport à l'acheminement, à la centralisation en tout cas des résultats. Et que les proclamations puissent être faites, en tout cas en toute transparence. Moi, je pense que c'est des éléments vraiment importants et qu'il n'y ait pas de bourrage dur.
Okay. Oui. Est-ce que les acteurs de la transition, de cette transition, peuvent participer pour vous à la future présidentielle? Je parle
depuis le début de la rectification de la transition, j'avais donné. En tout cas, ma position, aujourd'hui, les gens parlent d'une éventuelle candidature d'Assimi. Il faut que Assimi même se prononce dessus. Okay. Et que si cette candidature est validée, bon, tant mieux. Mais qu'à cela ne tienne, la vie continue. Mais ce qui est évident pour moi, je dis, empêcher quelqu'un de son droit, parce que pour moi, on a droit à être électeur et éligible si nous remplissons les conditions. Et nous sommes tous des Maliens, mais dire que Assimi est candidat, qu'il n'y aura pas d'autre candidature, il y aura plusieurs candidatures. Et je dirais que le meilleur gagne.
Mais maintenant, si Assimi est candidat, le président Assimi Goïta, est-ce que ça ne va pas fausser un peu les règles du jeu? Par exemple, c'est comme si c'est lui qui doit arbitrer, si l'arbitre lui-même rentre dans le match.
Alpha a arbitré pendant son deuxième mandat. ATT a arbitré pendant son deuxième mandat. Ibeka a arbitré pendant son deuxième mandat. Disons que pour moi, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que nous convenions en tout cas des procédures et que les règles du jeu soient respectées. C'est ça le plus important.
Quelles sont les règles du jeu pour vous? Est-ce qu'il a droit à cette candidature? Parce que la charte de la transition dit clairement que le président de la transition, le premier ministre, le président du CNT ne peut pas être candidat.
Bon, vous savez, cette charte-là, elle a été relue combien de fois? Vous savez, le français, il est tellement souple, il y a beaucoup d'astuces. Moi, je ne suis pas un juriste, mais ce qui est évident, attendons de voir d'ici 2 mois, 3 mois, et les galons peuvent tomber, on peut voir éventuellement...
Oui, mais est-ce que le M5, vous, au niveau du M5, est-ce que vous allez peut-être être dans ça?
Moi, j'ai dit que l'idéal pour nous aujourd'hui au niveau du M5, c'est qu'il y ait en tout cas une candidature unique, l'aile militaire et l'aile politique, comme vous l'avez dit, qu'on se mette ensemble, que nous décidions d'un candidat pour aller à cette présidentielle. Maintenant, ça peut être un militaire comme ça peut être un civil. Ça dépendra, en tout cas, de ce que nous allons convenir. C'est ça le plus important. Mais maintenant, dire que, bon, eux, ils décident tout seuls, soyez-en certains que le M5 aussi aura sa candidature.
Oui, parce que c'est Feu Oumar Bongo qui disait qu'on n'organise pas des élections et les perdre. C'est justement pour ça que je dis, est-ce que le fait que le président de la transition rentre dans la danse, est-ce que ça ne va pas démobiliser, par exemple, les autres candidatures?
N'est-ce pas? Et lui, il a dit cela. Mais ce qui est évident également, au Sénégal, où elle a organisé les élections, il les a perdues. Ainsi va la vie. Hein? Et l'exception confirme toujours la règle. Il n'est pas dit que Assimi va être candidat et gagner forcément les élections.
Une question personnelle pour vous. Est-ce que vous, Jamil Bitar, si le président est candidat, vous allez le soutenir, vous personnellement?
Ça dépend de beaucoup de facteurs. Moi, je suis un homme politique. Je vais regarder par-dessus plusieurs fois avant de me prononcer dessus. Et moi, ce qui est important pour moi, c'est le projet que l'on porte. Ce n'est pas l'humain en humain. Et moi-même qui suis en face de vous, éventuellement, on ne sait jamais. Si le choix venait à se porter sur moi, je pense que je suis fin prêt pour le faire. Ça dépendra, en tout cas, du peuple M5, okay. Du peuple de nos alliés. D'accord. Moi, je pense que, en tout cas, moi, je ne suis pas un obsédé du pouvoir. Je ne suis pas dans cette dynamique. Je pense que ce qui serait bon pour notre pays aujourd'hui, c'est qu'on convienne de quelque chose. Maintenant, si le choix venait à se porter sur Assimi ou se porter sur moi, tant mieux. Et si c'est une autre personne, tant mieux. Moi, je dis quand même que nous devons aller ensemble. C'est ça l'idéal. Maintenant, à défaut, chacun a...
Est-ce que vous ne criez pas, si chacun va en rang dispersé, est-ce que vous n'allez pas vous-même vous fragiliser peut-être vos chances, hein, et peut-être de remporter?
Mais c'est pourquoi je le dis. Je le dis. Si nous partions ensemble, ce qui est sûr, on peut gagner au premier tour. Okay. Maintenant... À défaut, bon, vous savez, ça reste...
Donc ça veut dire que c'est un jeu intéressant, ça devient intéressant peut-être dans les... On verra clair hein, dans les jours à venir.
Oui, moi je pense que d'ici 2 mois, tout va se clarifier.
D'accord.
Parce que si les militaires doivent être partants, je pense que les galons vont tomber. Oui.
Parlons du Premier ministre, est-ce que vous pensez qu'il rêve aussi... D'être président. Le Premier ministre, c'est votre ami, c'est votre grand frère. Vous aimez vraiment souvent dire l'expression grand frère. Est-ce que vous pensez que lui aussi, il peut rêver d'être dans la danse, par exemple,
la course? Moi, c'est pas un rêve. C'est pas un rêve. Moi, je dis toujours, vous qui êtes en face de moi, vous pouvez être candidat. Pourquoi pas? Vous savez, les ambitions sont d'abord personnelles. Et au-delà de ça, il y a l'objectivité qui fait que nous nous remettions toujours à la décision du groupe, etc., etc. Mais ce qui est évident pour moi, on ne devient pas un chef de parti pour dire « Non, moi, je ne vais pas à la conquête du pouvoir. » Ça, c'est du jamais vu. Je pense, de la chute de Moussa jusqu'à maintenant... Chogal a toujours été candidat.
Sauf que cette fois-ci...
Toutes les élections...
Cette fois-ci, le Premier ministre est d'une transition.
Mais
il est interdit d'être candidat.
Bon,
c'est justement à ce niveau qu'on se pose des questions.
Mais moi, je dis... En tout cas, personnellement, il ne me l'a pas dit encore. Okay. Je ne peux pas dire qu'il a l'intention à temps opportun. Chogel peut s'exprimer, autant également Assimi peut s'exprimer. Mais il ne peut pas être Premier ministre et être candidat, ça c'est clair.
Mais pourquoi le président peut être président et puis aussi...
Si le président doit être candidat, il faut qu'il démissionne. Okay. Et c'est pourquoi il ne sera pas juge parti, parce que déjà il faut qu'il laisse les galons.
Hein? Oui, Jabil Bitar. Ok, on suivra tout ça et puis certainement que des scénarios possibles vont se dessiner, mais on va suivre ça. Pour vous, le futur président, le portrait robot du futur président, qu'est-ce qu'il doit incarner pour vous?
Mon visage.
Jabil Bitar, les téléspectateurs nous regardent, hein, donc voilà.
Hein. Mais je vous dis ce que je pense réellement.
D'accord.
Parce que moi, je pense que je porte un projet ambitieux depuis tout le temps. Et je ne fais qu'améliorer ce projet. Et à défaut que ce soit moi, je pense que si une bonne partie de ce projet est prise en charge par une candidature que j'estime qui a plus de chances que la mienne, et pourquoi pas composer. Donc voilà un peu, en tout cas, ce que je vois. Mais il n'est pas exclu.
Est-ce qu'on peut dire que la future présidentielle ne se fera pas sans vous, par exemple, si vous êtes vivant, vous allez mouiller le maillot?
C'est clair. Je l'ai toujours fait, je continuerai à le faire. Et peut-être que je pense qu'il n'y a pas de retraite pour un homme politique. Et nous restons politiques jusqu'à la fin de nos jours. On peut avoir du recul, mais dire qu'on sort de l'arène politique, ce n'est pas évident. Maintenant, la politique de la chaise vide, je ne la ferai pas. Je pense que je suis un acteur aujourd'hui majeur, incontournable de cette scène politique. Et je compte assumer pleinement, à toi, tout le rôle qui est le mien.
Ok. Jamil Bitar, hein, on est pratiquement à la fin de l'émission. Hein, donc, on est en train d'aborder les questions sur l'élection présidentielle. Si vous devez rencontrer Assimi une audience, par exemple, avec lui, 2 minutes hein, d'audience, par exemple, qu'est-ce que vous lui direz, vous-même, en face d'Assimi, le président de la transition?
Je dirais de tout faire pour relancer notre économie nationale. Parce que aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, on ne se nourrit pas souvent de, on se nourrit de pain et d'eau. Et aujourd'hui, le peuple souffre. Il faudrait que
nous... Vous pouvez parler.
Je dis aujourd'hui, oui. Au niveau de la population, oui. Les gens sont dans le besoin. Et il faut qu'il y ait quand même un élan nouveau, un souffle nouveau. Sur ce même plateau, j'avais dit que le gouvernement était à bout de souffle et qu'il fallait du sang neuf, injecter du sang neuf. Et j'ose espérer qu'il n'y aura pas de temps d'apprentissage, que les ministres qui viennent directement dans l'attelage aujourd'hui doivent comprendre que tout est rouge, les feux sont déjà rouges. Il faut aller rapidement pour que les Maliens puissent se retrouver vraiment.
Ok. D'accord. Jamil Bitar, on est à la fin de l'émission. Si vous avez un message pour les téléspectateurs maliens et les téléspectateurs africains qui nous regardent ce soir, les Maliens de l'intérieur et les Maliens de la diaspora, c'est quoi le message?
Le message, c'est de leur demander surtout, avec en tout cas beaucoup, beaucoup d'intelligence, de voir, de pouvoir plaider tous ensemble pour la cohésion nationale et que nos propres différends ne devraient pas être un frein, en tout cas, pour la réussite de ce que nous avions entamé ensemble. Et moi, j'estime ce que nous avions débuter ensemble, nous devons terminer ensemble. Et terminer ensemble, pour moi, c'est de terminer en beauté. C'est d'envoyer un signal au monde entier et d'être fier d'être malien et que nous sommes un grand peuple, nous sommes un peuple, en tout cas, qui œuvre de jour comme de nuit pour le bien-être de nos populations.
Merci Jamil Bitar. Jamil Bitar, vous êtes porte-parole du M5 RFP. Hein. Merci d'être là. Nous vous souhaitons bonne chance hein, pour vos ambitions et même aussi hein, pour le combat politique, votre engagement politique.
C'est à moi de vous remercier. Et à chaque fois que l'opportunité se présenterait à moi, je pense que je serai... Inch'Allah, et c'est le lieu aussi de remercier toute l'équipe de Djoliba. Vous souhaitez encore, il n'est jamais trop tard, bonne fête, parce que vos équipes ont voulu me prendre pendant la fête. Malheureusement, j'avais du monde et j'étais un peu souffrant, et j'ai pas voulu Mais aujourd'hui, Dieu merci, je me porte à merveille et merci. La récupération est là et bonne fête.
Bonne fête aussi à vous, les militaires, nos vœux les meilleurs. Vous êtes ici chez vous, n'hésitez pas et nous serons toujours là pour, à chaque fois que vous le souhaitez, prendre la parole. Nous sommes là aussi pour ça, pour notre construction, pour notre participation au projet démocratique. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de votre fidélité toujours renouvelée au programme de Djoliba TV News. Nous recevions pour vous Jamil Bitar, porte-parole du M5RFP. Vous pouvez retrouver cette émission demain 10h et puis aussi le dimanche ou le samedi à 11h. Augustin, vous pouvez me rectifier. Le dimanche à midi. Donc demain, vous pouvez retrouver cette émission demain à 10h et le dimanche à midi à 00. Au revoir et à jeudi prochain pour un autre numéro de votre émission En toute liberté.
En toute liberté.